L'oreille cassée. L'oreille cassée. L'oreille cassée. L'oreille cassée.
Laurencine et ses amis vont vous faire vibrer.
L'oreille cassée. L'oreille cassée. L'oreille cassée.
Claude, Jean-Michel, Gilles et Sébastien vont vous faire crier.
L'oreille cassée, l'oreille cassée, l'oreille cassée, l'oreille cassée, l'oreille cassée, l'oreille cassée, l'oreille cassée.
Casser l'émission Super Rock des 3-8 de la Grenouille. On s'installe dans le studio. Voilà, il y a beaucoup de monde ce soir. Et notamment, on a une invitée de marque, on va dire. Robert Rossi, qui a écrit donc le fameux bouquin Histoire du rock à Marseille, 1960-1980, aux éditions Le Mot et le Reste. Robert Rossi, reconnu
rock.
Rock. Qui était aussi, qui est toujours le chanteur du groupe Quartier Nord. Voilà, donc, on va parler de tout ça. L'émission va tourner beaucoup autour de ce bouquin, hein, puisque cerise sur le gâteau, le livre est accompagné d'un CD, un CD donc de 12 titres, où on retrouve quelques sélections qui font partie des groupes qui font partie du livre. Voilà, qu'est-ce qu'on entend là derrière? Il y a un truc qui fait ding 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 ding. Voilà,
c'est
ça,
un
c'est
Sébastien
qui était la technique. Alors, il y a ce soir pour l'oreille cassée, donc Eric, Gilles,
ciao, les amis.
Dany,
salut.
Et le grand retour de Jean-Michel. Voilà, très content de le retrouver. Et bien sûr, Laurent Sins au micro. Nous, on débute par une nouveauté, le disque de la semaine. C'est un groupe français, les Liminanas, vous connaissez tous. Ils sont des Perpignan et ils sont en train de monter un petit peu la sauce parce qu'ils veulent un peu s'exporter à l'international. Donc, ils travaillent en ce moment avec Anton Newcomb
des Brian Johnston
Massacre. Voilà. Qui produit leur futur album. Ils se produisent aussi à Londres où ils jouent en ce moment. Donc, voilà. Donc, ils prennent de l'ampleur, de l'épaisseur. Et pour un album qui est prévu début 2018. Alors, en attendant, voilà, il y a un nouveau single qui avait la participation d'Anton Newcomb. Ouais. Et il s'appelle Istanbul is Sleepy. Et on les écoute tout de suite, les Liminanas.
We'll be right back.
Yes, Liminanas, oui. Istanbul is sleepy. Donc, nouveau single en attendant le nouvel album début 2018. Voilà, belle aventure pour ces Perpignanais qui arrivent maintenant un peu à se faire connaître voilà, au-delà de l'Hexagone et avoir un petit peu une aura, on va dire, internationale. Voilà, on a Rock Rossi avec nous.
Salut.
Robert, Rock Rossi. On dit Rock aussi.
Oui, oui.
Ouais, voilà. Là, voilà
de, ça dépend
donc,
de
chanteur du quartier Nord et écrivain, hein, puisqu'on en parlait en introduction.
Docteur S. Histoire.
Docteur S. Histoire, voilà, donc, qui a écrit. Le livre L'histoire du rock Marseille de 1960 à 1980. Voilà, donc éditions Le Mot, le reste.
Non, mais en vrai, c'est pas une boutade. Il est docteur S-Histoire.
Ah oui, je sais, oui, oui, c'est marqué.
Pas parce qu'il a écrit.
C'est écrit. Tu as fait une thèse, oui, exactement. La thèse sur qui déjà tu es?
Léo Taxil.
Léo Taxil. Léo Taxil, donc qui était journaliste.
Celui du Taxil Bar.
Léo Taxil, voilà. Donc, voilà, donc on va parler un petit peu de ce livre qui retrace une histoire du rock à Marseille et un livre salutaire parce que si tu n'avais pas fait ce travail, je pense qu'il y a beaucoup de mémoires, beaucoup de choses qui auraient été oubliées avec le temps et ça m'a permis, de, ben, voilà, de se souvenir et puis d'avoir, d'avoir ce témoignage comme ça écrit, qui est assez un beau travail. Hein. Ça t'a pris combien de temps pour faire ce bouquin?
Ouais, j'ai commencé en 2006. Et mais comme ça, juste pour justement parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a personne qui va faire ce travail. Et j'ai commencé à travailler là-dessus, mais simplement pour récolter de la mémoire et en vue d'un futur, en attendant qu'un futur chercheur s'intéresse à la chose.
Voilà, c'est
bon, après, moi, j'avais mes spectacles, ma thèse, etc. Donc, j'ai laissé tomber jusqu'en 2015.
D'accord.
Et j'ai repris en 2015 et 2016. Là, oui. Là, je suis allé à fond. Donc, deux ans, plus un peu en 2006, quand même. Neuf ans avant.
Voilà. Donc, il a fallu quand même, on va dire, trois bonnes années pour réaliser l'ouvrage. Pour réaliser l'ouvrage.
C'est un travail méticuleux. Hein, c'est vrai qu'il y a des détails, c'est vrai. Hein.
Il t'a plu le livre d'Annie?
Oui, bon, je ne l'ai pas lu en entier.
On est fans dans le cassé.
Oui, on est fans. On est fans des quartiers. Non.
Moi, je voulais savoir pourquoi tu as sélectionné 60-80.
Alors, en fait, c'est parce que je ne me sentais pas de faire toute l'histoire du rock
une
à Marseille. C'est
quoi.
Trop lourd.
Ouais, ouais.
Alors, je comptais le faire en duo. D'ailleurs, j'avais même proposé à Gilles
de faire le tome 2.
De travailler avec moi.
Ah,
non,
ouais,
même, c'était même pas question de tome 1, tome 2.
Ça a été un peu informel, on va dire.
Voilà, bon.
On s'est pas appelé, tout ça. Et,
bon, enfin.
Voilà.
Et donc, après, je travaillais sur ce que j'appelais une introduction à l'histoire du rock à Marseille. Et après, quand je suis allé voir un éditeur, il a dit moi l'introduction, ça m'intéresse pas, je veux l'histoire du rock. Et je me suis dit non, mais l'histoire du rock, il faut bien la baliser. Alors, je me suis arrêté au niveau géographique à Marseille intramuros. Il y a des tas de groupes dont j'aurais voulu parler, mais qui sont d'Aix, de Berre, etc. Ouais. Mais non. Et puis, au niveau chronologique. Donc, chronologie, je me suis dit, bon, allez, 80, c'est déjà pas mal. Donc, je parle, attention, je parle des groupes et leurs prolongements aussi, après 80, bien sûr. Mais disons que je me suis dit, tous les groupes nés avant 80.
Voilà, 80. Voilà. C'était la limite.
C'est ma limite, c'est ceux qui sont nés en 79. Voilà.
Bon, il faut savoir que tu es bien placé pour ce sujet-là, hein, quand même, en tant que connaisseur du rock à Marseille.
Ouais,
mais. Il n'y a pas mieux, quoi.
Juste une question. Il y en a beaucoup parmi ces groupes avec qui vous avez partagé l'affiche, par exemple? C'est une question
Oui, de la fin des années 70, oui, il y en a beaucoup. Oui.
Oui. D'accord.
On y reviendra tout à l'heure, toutes les questions, hein, puisqu'on va dérouler un petit peu la sélection musicale. Alors Eric, tu nous as amené encore un groupe qu'on ne connaît pas, ici dans l'oreille cassée. On va essayer de découvrir.
Ouais, c'est une nouveauté, c'est la scène britannique, parce que je crois que la semaine dernière, on a passé exclusivement des groupes américains, il me semble. Hein. Donc là, je me suis dit, allez, on va refaire un petit tour du côté de la Grande-Bretagne et de l'Europe. Donc je crois que c'est le troisième album de Mount Kimby. Un groupe qui est signé sur le label Warp, hein, label mythique, le label d'Otaker et de Battles notamment. Et ils viennent de sortir un album qui est assez groovy, hein, ça sonne quand même pas mal assez années 80. Mais moi j'ai trouvé ça bien. Les morceaux chantés, je suis un peu moins convaincu. Mais là, je vais vous faire écouter un morceau, un instrumental, qui s'appelle Audition. Et l'album vient de sortir, il s'appelle Love What Survives. Et c'est signé chez Warp, c'est Mount Kimby.
C'est parti.
Yes.
Ok, voilà, donc une découverte.
Mount Kimby.
Bref, je retiens le nom parce que j'ai bien aimé. Il y a un côté une optique dans cette musique. Voilà, je voulais rappeler quand même qu'il y a le Kiss Kiss Bank de l'Hip-Hop qui continue jusqu'au. Il se terminera le 16 novembre. Alors, vous savez que l'Hip-Hop, vous connaissez tous. On a un disquaire spécialisé à Marseille. Et puis, pas que disquaire, puisqu'en fin de compte, c'est un lieu unique dédié à la musique. Il y a aussi une librairie, café-concert. Il y a des showcases. Il y a des expos, donc il y a tout le lieu.
Il y a même des lancements de bouquins des fois.
Donc il y a tout rock. Tu es passé il y a quelques temps pour l'inauguration du bouquin.
Officiel.
Alors qu'il était sorti. Grosse soirée parce qu'on avait reçu Nitrate aussi qui jouait le soir même. Donc ils étaient tout contents. Et puis bon, ils ont besoin du soutien un petit peu des gens quoi pour acheter du matos, pour un peu rénover un petit peu le lieu. Parce que c'est vrai que toujours ces disquaires spécialisés, on va dire avant tout, c'est une économie qui est très fragile. On sait que les disques, c'est difficile à vendre. Il y a, avec le téléchargement, etc. Et puis aussi, ici à Marseille n'est pas mieux. Marseille est une ville pauvre, il faut le dire, par rapport au public, par rapport au potentiel qu'il y a de la ville.
Oui, bien sûr, il y a aussi un disquaire mythique à San Francisco qui a fermé, Aquarius. Et pourtant, c'est San Francisco, une ville qui a de l'argent. Mais c'est difficile quand on est disquaire de vivre.
On voit la différence, la différence avec des villes plus bourgeoises, par exemple, comme Lyon ou Bordeaux, par exemple, où les disquaires.
Même Toulouse, il y a 6 ou 7.
Toulouse, il y a une rue,
où il n'y a que des disquaires. D'ailleurs, c'est malade quand tu vas là-bas.
Je suis allé un samedi après-midi, l'été, il y a 2 ans, j'étais à Toulouse. Écoute, je suis passé dans ces disquaires, ils étaient pleins. C'était bourré de monde et ça débitait. Quand on voit un petit peu le public qui fréquente les disquaires à Marseille, c'est vrai que c'est plus clairsemé, c'est moins.
Oui, puis je pense aussi le fait que le centre universitaire soit éclaté sur Aix et Marseille, ça joue aussi. Parce que tu as cité Lyon, tu as cité Bordeaux, tu as cité Toulouse, c'est les villes universitaires. Oui, tu vois ce que je veux dire. Et ça, quelque part, je pense que ça joue.
Il y a aussi ce facteur-là.
En même temps, quand tu fais le déménagement de Jean-Michel, tu comprends pas qu'il y a une crise du disque. Il y a 50 000 caisses. Il y a une caisse, il n'y avait pas un seul disque que je connaissais. Ce qui est assez impressionnant.
Moi, j'ai fait les vinyles, des boîtes en bois. Je ne dis pas.
J'ai encore mal au dos.
Voilà,
donc. Dis pas moi comment je suis.
Voilà, donc, Kiss Kiss Bambank, donc de l'Hip-Hop. Ou allez sur le site de l'Hip-Hop tout de suite. Enfin, sur le site ou sur le Facebook. Vous avez toutes les références pour les soutenir. On peut aller jusqu'à 10 euros, jusqu'à 300 euros. Enfin, bref. La somme que vous voulez, donc pour les soutenir, et c'est important parce que l'opération qui se termine le 16-11, s'ils n'ont pas récolté les 5000 euros, ils perdent tout, donc c'est important d'y aller, même pour une petite obole. Voilà, donc ceci dit, on enchaîne avec un concert bientôt qui va arriver.
Alors, mercredi prochain, le groupe anglais, les Godfathers, groupe mythique, je précise, parce qu'il y a un groupe marseillais du même nom, c'est pas eux, c'est les Anglais, c'est le groupe des frères Coyne, mais qui sont un peu orphelins puisqu'un des deux frères ne sera pas là. Ils sortent un disque qui s'appelle A Big Bad Beautiful Noise. Ça va être une tuerie, hein. J'ai eu le manager du groupe, il passe au Molotov, voilà, le premier. J'ai eu le manager du groupe via Facebook qui m'a dit qu'ils étaient in a wonderful shape. Bon, ce qui veut dire en gros dans un état
super fort,
voilà, et que les concerts qu'ils ont donnés, c'est des tueries. Bon, moi je suis le fan ultime des Godfathers.
Alors explique pourquoi tu es le fan ultime, parce que je sais pas, tu me dis.
Mais je l'ai quasiment fini. Je pense que ce sera le meilleur article en langue française sur les Godfathers. Vous connaissez ma modestie naturelle. Tout simplement, les mecs ils s'amusaient à faire celui qui pisse le plus haut, mais version rock'n'roll, et ils mettaient leur disque des Godfathers. Et pour moi, c'était des gentils amateurs. Et donc, moi, un jour, ça m'a pris, je les ai mis comme ça. Je les ai pris en photo et je les ai mis sur le site des Godfathers. Et là, les mecs, ils ont halluciné en ajoutant, parce que moi, en plus, je suis français, c'est-à-dire que je me suis vraiment cassé le fion pour les trouver. Et donc, suite à leur premier concert français, le chanteur est venu, m'a donné la collade et il m'a qualifié number one Godfather in the world, pas juste à Fabregoule. Voilà. Et donc suite à ça, bon, il y a, voilà, j'ai des relations un peu privilégiées avec le groupe parce que bon, ils pissaient les mecs, mais pas très haut. Moi, j'ai vraiment mis. Il y avait même des disques que, sans mentir, ils les connaissaient à peine. Et là, un peu, ouais. Et là, j'ai trouvé une version d'un disque. Je sais même pas s'ils le connaissent. Un truc mais hallucinant. Un pressage où il y a tous les titres des disques de World School Birth Death, mais qui en réalité est un EP avec deux titres. Un truc mais de folie. Je poserai la question le soir du concert.
Bon. Voilà, donc si vous voulez voir toute la collection des Godfathers, parce que Gilles va l'amener.
J'ai pas des chariots.
Je vais pas tous les mener parce que sinon il faut une brouette. Et puis bon, ils m'annoncent déjà. Voilà, c'est un groupe quand même qui aurait pu marquer son époque, mais ils étaient trop purs. Ils étaient trop.
Trop rock'n'roll.
Voilà, trop rock'n'roll. Ils ont quand même, été l'émotion. Ils ont été produits par. Ils ont été produits par Vic Mail.
Il en pleure.
Ils ont été produits par Vic Mail. Et il y avait une anecdote que je lisais souvent, mais dont j'ai eu vraiment la primeur par le bassiste. En fait, ils avaient écouté, ils cherchaient un producteur et ils sont rappelés de la face B d'un morceau de Motorhead produit par Vic Mail, et c'est devenu le sixième Godfathers.
D'accord.
Voilà, et ça va être une tuerie ce concert. Bon, putain, venez, hein,
alors, venez, c'est venez, comme, parce que j'ai dit à Zem qu'on serait au moins 100. Hein.
Voilà, il faudrait qu'on soit 100.
C'est mercredi prochain.
Mercredi prochain, ouais, au Molotov.
On écoute les Godfathers.
Écoute, oui, Défibrillator. Bon, voilà, j'espère que vous n'en aurez pas besoin.
Yes, oui. Voilà, donc mercredi prochain.
Oui, A Bag Beautiful Noise sera le ton de la soirée. Les Godfathers, grand groupe anglais de rock'n'roll. Je vais vous faire une confidence. Normalement, ils vont reprendre les Ramones lors de leur dernier appel.
Il sait tout.
C'est déjà tout. La setlist, il a déjà en tête.
La setlist, je la connais par cœur.
Au Molotov, dimanche soir, il y a des vétérans du Rocksteady, là, Keith and Tex, des vieux de 70 ans, qui sont revenus. Et je pense que ça peut être aussi un concert très 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 sympa. Moins rock'n'roll.
Ça va transpirer là aussi.
Plus qu'à.
Ouais.
Voilà, bon, maintenant les choses sont sérieuses. On a Robert aussi au micro avec nous, hein, voilà, pour l'histoire du rock à Marseille, 1960-1980. Donc on sait pourquoi tu as fixé ce cadre chronologique. Mmh. Alors, c'est un véritable, pour moi, un travail d'historien, hein, un ouvrage que tu as réalisé essentiellement sur des témoignages.
Hein, ouais, parce que évidemment, c'est pas la vocation d'un groupe d'archiver. Donc autant l'audio, même des fois, hein, on croit que mais les, bon, même ceux qui ont produit des disques, souvent les 45 tours à l'époque, bon ben des fois ils en ont plus. Par exemple, je me souviens d'un groupe de rhythm and blues, là, que je cite, qui s'appelle les Gadgets,
ouais, les Gadgets,
qui ont fait toute leur carrière en Italie.
Et, ouais.
Et les mecs, le mec que j'ai vu, là, Lombardo, il n'avait plus rien, absolument plus rien.
Ah, d'accord.
Bon, il faut dire que le groupe a fini tragiquement. Mais j'ai insisté, je lui ai dit, mais tu connais pas quelqu'un qui pourrait avoir des archives et tout ça. Et il m'a dit, ah ouais, j'ai une tante qui peut-être a tout ça, mais je suis en très mauvais terme. Je suis en très mauvais terme avec. J'ai dit, ouais, essaye de voir quand même. Ça vaudrait trop le coup, quoi. Et donc, finalement, il a rencontré, il m'a dit, peut-être au réveillon du jour de l'an, je l'ai trouvé. Et finalement, il m'a retrouvé le 45 tours et tout ça. Mais bon, je voulais dire par là que...
Qui apparaît sur le...
Voilà, voilà. Ah oui. Mais il était dans un sale état. Et voilà, et on a ce qu'on peut avoir, quoi. C'est déjà pas mal d'avoir des photos de copains. Parce que voilà, maintenant, évidemment, on prend des photos à tire-larigot. Ça, mais à l'époque, non. Ouais, à l'époque, il fallait déjà que quelqu'un... pense à faire un cliché, quoi.
Il y a quelques images, mais peu de sources écrites, hein, parce qu'il y a une rubrique dans le Provençal qui est assez marrante, qui était, qui s'appelait les musiciens qui font un orchestre.
Voilà.
Donc ça c'est. Et en plus, quand on le lit, c'est gentil, quoi. Il y a les gars qui disent, oui, voilà. Je veux, la musique c'est ma vie, je veux devenir un musicien, etc.
Puis l'autre fois, tu m'as raconté une anecdote assez tragique, là, du mec qui a vu la maison de ses parents brûler.
Oui, voilà. C'est Wolfgang, ça. C'est les gars de Wolfgang. Bon, c'est Colonna, Michel Colonna, chanteur bassiste. Et il avait tout archivé chez ses parents. Et le problème, c'est que ses parents, ils habitaient près de Carpiane. Et quand il y a eu l'incendie, la maison a brûlé.
Ah, bah, d'accord.
Donc, depuis, j'ai rencontré un autre musicien de Wolfgang qui va peut-être m'en apporter. Oui. Mais là, à l'époque, voilà. C'est comme ça. Et pareil, pour, je veux dire, je me suis dit, alors que. Moi, par exemple, sur ma thèse, je travaillais surtout comme un rat de bibliothèque, dans les fonds d'archives, tout ça. Donc, les archives écrites, c'est quand même plus précis. Là, non, on peut pas. On
que
peut
l'oralité,
pas,
l'oralité.
Mais pas que, mais. En plus, je me suis dit. Moi, ce que je voulais faire, c'est un peu les parcours des gens que j'ai interviewés.
Exactement.
Dans leur cheminement, quoi. S'ils s'intéressaient à la musique de petits ou s'ils ont découvert la musique avec le rock. Voilà, ça m'intéressait. Et donc, effectivement, là, il n'y a que l'oralité.
Ouais. Beaucoup de témoignages, peu de sources écrites, donc 58 groupes qui composent 58, hein, je me trompe.
J'ai pas compté.
Qui compose l'ouvrage, alors putain, j'ai dit compter vite. Mais alors, et 58, et c'est pas exhaustif, hein, bien entendu, mais ça reflète quand même une scène très vivante, la vivacité du rock à Marseille, qui aurait été oubliée s'il n'avait pas fait ce travail, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui sont passés de mémoire, ou qui, avaient, au fil du temps, on aurait oublié forcément, puisque les acteurs disparaissant petit à petit. Hein, c'est vrai que maintenant, le rock a lâché ses artères. Hein, voilà. Donc, et c'est un livre qui va à l'encontre des idées reçues. Que Marseille n'est pas une ville rock.
Mais après, tout ça, c'est les médias. Hein.
Ouais.
Comme moi, je me souviens, quand on allait démarcher à Paris dans les maisons de disques, c'est un peu ce que je dis au début, dans l'introduction, c'est Marseille, c'est loin, on nous a dit. Et,
un peu l'Algérie.
Voilà, ouais, j'ai rajouté un peu l'Algérie, parce que dans leur tête, c'était ça.
Oh.
C'est-à-dire que c'est plus la France, quoi. Voilà, c'est plus la France. Et effectivement, il faut voir, à l'époque, déjà, il y avait pas le TGV, etc. Bon, donc, et si on voit les groupes qui ont éclos à Lyon, par exemple, ou Rennes, tout ça, finalement, c'est pas très loin de Paris. Ouais. Je veux dire, au niveau temps, quoi. Voilà. Voilà.
D'ailleurs, il y a un groupe qui s'appelle Carona Machination. Il parle qu'il devait aller jouer au Golf Drouhou. Donc, c'est un tremplin, hein, à Paris.
Oui.
Et il dit long et grand voyage, quoi.
Ben ouais,
il n'y a pas l'autoroute qui était finie à l'époque, voilà. Etc.
Et même quand il y avait fait l'autoroute, on passait des fois par la nationale parce que pour éviter le péage. Et puis, mais à cette époque-là, ce que je voulais dire, c'est que Marseille avait une réputation pourrie. Mmh. Alors que maintenant, elle est bien pire qu'à l'époque, la situation réelle. Mais les non-marseillais voient ça comme une carte postale. Ils ne voient que la carte postale. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il n'y a que les médias fabrique tout.
Il y a quand même les autoroutes de l'information qui fait que tu peux mettre un morceau en ligne et le mec il habite Bourg-en-Bresse ou Paris ou New York, il peut l'avoir en 30 secondes. Donc a priori ça a ouvert Marseille.
Non mais je parlais là de la vision de Marseille quoi.
Oui, j'avais bien compris.
Voilà. Du fait aussi qu'on a fabriqué un Marseille rap. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a scandalisé, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à faire ce travail, c'est que il était sorti l'histoire du rap à Marseille. Et je dis, c'était quand même incroyable. Le rock existait bien avant, et il n'y a personne qui s'est penché là-dessus. Et bon, alors, là, je rejoins. Il y a deux événements qui sont à mettre en corrélation. Il y a un sociologue qui a travaillé sur nous en 2003, qui s'appelle Marc Touché, et qui travaillait pour le MUCEM. À l'époque où le MUCEM était à Paris, on ne savait pas s'il allait perdurer. Et il me disait le MUCEM a des socio-historiens qui, pour travailler sur divers styles musicaux, donc il y a les musiques traditionnelles, il y a le rap, et moi, j'ai posé la question, j'ai dit, mais vous ne traitez pas le rock? Et on m'a dit, non, ça ne nous intéresse pas. Et il a fallu que j'insiste, et finalement, on lui a donné à lui seul, alors que tous les genres musicaux avaient des tas de chercheurs, et c'est lui seul qui a traité le rock pour le MUCEM.
Ça les intéressait pas, parce que pourquoi? Parce que c'était par rapport aux origines sociales ou les origines, parce que le rap c'est connoté, on va dire banlieue, etc.
Il a posé la question, mais pourquoi le rap alors c'est traité? Il disait, parce que c'est une musique sociale.
D'accord.
Alors,
tout le contraire.
Exactement.
Hein. Exactement.
Et je dis, s'il y a une musique sociale, bon, il n'y a pas que le rock, hein, mais le rock quand même. Non, surtout en pensant à tout ce qu'on a vécu au niveau musique d'émancipation. Voilà. C'est l'émancipation.
Et un cri de la jeunesse.
Mais je veux dire, à cette époque-là, je dis cette époque-là parce que je ne pense pas que ça soit aujourd'hui, ça soit la même chose. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il y a de la résistance. Mais il n'y a pas ce grand mouvement universel. On allait dans n'importe quel pays du monde, les mecs ils écoutaient la même musique, ils nous logeaient, on communiquait par la musique, quoi. Donc voilà. Et c'était un mouvement, comme je répète, c'est important, d'émancipation. Voilà.
D'émancipation. Ouais. Alors, de ton bouquin, ce qui m'a frappé, c'est les conditions sociales aussi, les origines des musiciens. Parce qu'on peut dire aussi de le rap, ça pourrait venir de là, mais là on a le fils du bourgeois qui côtoie le fils d'ouvrier. Oui. Il y a beaucoup aussi de rapatriés.
Il y a beaucoup
de rapatriés.
Oui,
c'est énorme. Né en Égypte, né en Tunisie, fils de juifs marocains, etc. Voilà, donc Montezuma, par exemple, Jean Amias.
Oui,
dans Flat Pops, William Palmy, qui est né en Alexandrie, par exemple. Voilà, donc, on voit que quand même, il y avait... Et c'est vrai qu'on retrouve des jeunes travailleurs, des lycéens, des étudiants. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, si on parle milieu rock, c'est un milieu quand même petit bourgeois.
On nous a demandé il y a déjà 15 ans de ça presque, on nous a demandé de participer à un jury sur des groupes, des chanteurs, etc., qui se passaient à l'Espace Julien. Et c'était incroyable, il y avait 12 groupes. 6 groupes des quartiers nord, 6 groupes des quartiers sud. Tous les groupes des quartiers nord faisaient du rap, et tous les groupes des quartiers sud faisaient du rap. Et là, au moins, c'est clair.
Allez, on tchatche, on va laisser place à la musique, parce qu'il y a le CD, quand même, 12 titres qui accompagnent le bouquet. Hein, donc, tu as fait. Il y a ce fameux CD. On pourrait dire. 12 titres, quand même, c'était cheap. Hein, on aurait pu mettre 24, il y a des difficultés à
l'assembler. Alors, deux choses. C'est que déjà, il fallait trouver les financements parce que l'éditeur avait prévu de financer le bouquin, mais il n'avait pas prévu de financer le CD. Ah ouais. Donc il a fallu trouver un petit financement autre. Déjà, dans le contexte de la région marseillaise, c'est très dur, les collectivités locales, ils n'en ont rien à foutre. Ouais. Le patrimoine, déjà, la corderie, ils s'en battent. Ouais, donc les vestiges de la corderie de grec antique. Donc le patrimoine rock, alors ils s'en battent encore plus. Donc déjà, et puis après, il y avait le problème. Donc, des archives qui ont été perdues, et de notre côté, et ou de très trop mauvaise qualité.
Et puis les enregistrements,
et puis, et puis les enregistrements qui sont officiels, je dirais, ouais, entre guillemets. C'est-à-dire que on ne sait pas sous quelle maison de disques sont passés, ouais, enfin, ou chez Universal, ou chez Sony Music. Donc, pas touche. On ne pouvait pas prendre le risque. Ouais, bah... donc, l'éditeur a demandé des titres libres de droit. Ouais. Donc, ça enlève déjà. Par exemple, on n'a pas pris le risque de mettre le titre « Dinou Dylan » des 5 Gentlemen, qui s'est vendu quand même à l'époque à 35 000 exemplaires. Donc celui-là, on ne pouvait pas le mettre parce que c'était un tube, et à savoir dans quelle niche, ouais, il se trouve au niveau des droits.
Un avocat, il sait quatre, vient toquer à la porte. Voilà, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par Quartier Noir.
C'est pas moi. Hein.
Une belle histoire, Quartier Noir, puisque le groupe existe encore aujourd'hui. Ça fait quelle année vous l'avez fondé?
77, novembre 77.
Novembre 77.
Exactement.
Novembre 77. Et on a une fan.
C'est quoi le premier concert, tiens?
Cinéviste. Cinéviste organisé par les gars du restaurant La Garga, qui étaient en fait des Mao, qui s'étaient installés dans le 15e. Pour essayer de porter la bonne parole maoïste dans les quartiers difficiles. Et finalement, petit à petit, ils ont commencé par se faire ronger par les dealers qui venaient se planquer là.
Parce que moi, je vous avais vu au carrousel à Plan de Cuc.
Ah oui, mais ça, c'est plus tard.
C'est plus tard, ouais.
C'est plus tard.
Voilà, bon, écoutez, on va écouter Quartier Nord, donc avec Angat sur le 31. Alors, c'est extrait du premier album?
Non, du deuxième.
Deuxième album. Mmh. Donc, c'est 1980.
Hein. 81.
80, ben voilà. Heureusement qu'il est là. Allez, c'est parti, Quartier Nord.
Depuis la répertoire, on parle pas ce qu'il quand je vois qu'il monte dedans. Aouh! Ils devant, ben derrière, ils font la fête à plombière. C'est qu'ils voient mes mains vides, c'est qu'on nous devient avide. Ils veulent me choper et pas pour me reléguer. Aouh! Ils s'occupent de me. Yeah!
Angats sur le 31, ça s'invente pas. Hein. Ça s'invente pas. Alors dans le dernier chapitre du livre, c'est le rock marseillais. Parce qu'en fait, de compte, Quartier Nord, c'est du hard rock, mais mélangé aussi à la tchatche marchaise.
Alors, c'est du hard rock, mais... non, parce qu'il y a des gens, après, à partir du moment où on a fait des opérettes rock marseillaises, quoi, pour nous, c'était la suite, pour nous, c'est une suite logique. Mais il y avait certaines personnes nous ont dit, oui, avant, vous aviez un côté hard, tout ça. Alors que si on écoute bien les premiers albums, il y avait la première face qui était rock, blues, et puis la deuxième était plutôt zappaïenne, etc. Donc, c'est pour ça que je dis, voilà, passe-moi le papier qui fait 11 minutes, je crois. Bon, voilà. Donc, ça passe dans des climats totalement différents, donc à la Zappa, quoi. Donc, c'est pour ça que je modère un peu le côté hard rock.
Alors, et l'identité, l'identité était marquée aussi par les paroles, quoi. Donc tu puisais dans le terroir.
Ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ah, oui. Non, en plus, ce que je me dis, c'est que même quand on... je pense qu'il n'y a pas de spécificité marseillaise au niveau du rock, je veux dire, à part nous, et peut-être, je rajouterai peut-être John Eddie Milton et ses paramètres.
Arrête-moi les animaux. Mais,
voilà, mais on le voit, je veux dire, Mildonian, donc le chanteur, lui, le rock, c'était la musique de son époque, mais en fait, il était fan de Rému, etc. C'était pas, lui, c'était ça qui l'intéressait. Et finalement, c'est ça, comme il était avec des potes qui jouaient du rock, eh ben, ça a donné ce truc-là. Mais finalement, si on regarde bien, même à travers le bouquin, les influences, bon, le début des années 60, c'est les groupes de référence français qui passaient à cette époque-là, qui jouaient tous des standards américains, mais chantaient en français, parce qu'il y avait eu un accord. Non, pas un yaourt, en français.
Et donc, noires,
et oui, les chats sauvages,
les Saint-Jacques-de-Maine, Dino Dylan.
Exactement. Donc là, les références, c'est chanté en français parce qu'il y avait eu un deal entre les maisons de disques américaines.
C'est l'époque yéyé, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc il y avait eu un deal entre les maisons de disques américaines et les maisons de disques françaises pour que les maisons de disques américaines ne diffusent pas les versions originales. Et donc là, ils pouvaient passer les mêmes morceaux, mais en français. Et c'est pour ça que tous les groupes, leurs référents, c'est les Chats Sauvages, etc. Tous ces groupes chantaient en français. Ouais. Donc on le retrouve à Marseille. Ils chantent tous en français. Et puis après, quand il y a le British Blues, etc., à partir de là, où l'influence est anglo-saxonne, tous les groupes se mettent à l'anglo-saxon et même dans leur nom de groupe, quoi. Et donc là, on retrouve cette influence un peu de partout, quoi. Et c'était un peu de partout comme ça. Et en fait, nous, on s'est dit, mais nous, pourquoi on ne ferait pas un truc chanté en marseillais, quoi, puisque à quoi ça sert de singer toujours les autres? Il vaut mieux, si nous on peut apporter quelque chose à cette musique, donc je répète, qu'on jugeait universelle. Et on avait à ce niveau-là, on avait été marqué par un groupe italien. Nous, on allait souvent en Italie parce que Loise et moi, on est d'origine italienne. Donc, on voyait qu'il y avait des groupes italiens qui remplissaient les stades. Ils étaient absolument inconnus en France et la plupart chantaient en italien, et notamment il y en avait un qui s'appelait Napoli Centrale, groupe napolitain avec James Senese au saxophone, qui faisait un genre de musique qui se rapprochait de Weather Report, donc plutôt jazz rock, mais avec des textes en napolitain et qui racontait tous les problèmes de vivre à Naples, notamment avec l'émigration vers le nord, etc., etc. Et nous, on s'est dit, mais ça nous conforte dans cette idée de raconter des problèmes spécifiquement marseillais sur ce qui se passe chez nous et de le chanter avec notre langue à nous. Voilà.
Voilà, donc voilà, tout est dit sur
Quartier Nord. Pardon, des fois je suis long. Mais...
Alors, livre passionnant, donc cette histoire du rock à Marseille, où on croise des personnages. Alors, des personnages quand même qui sont fabuleux. Enfin, alors, tu débutes le livre par Rocky Volcano. On vit quand même qui s'est inventé une histoire.
Non, mais c'est pas lui qui se l'a inventé. Attention, c'est sa maison de disques. Attention, il faut toujours... il est né à San Francisco, je sais pas trop où.
Sugar Ray Robinson.
Voilà. Alors, il a Rocky Volcano, il s'appelle Nico. Rocky Volcano, parce que ça faisait bien d'être italo-américain avec sa mère. Sa mère, elle tenait un bar, soi-disant. En fait, qu'est-ce qu'elle tenait? Enfin, bon, je m'en rappelle plus, mais... mais en fait sa mère elle avait un resto à Marseille, quoi.
Voilà,
voilà.
Resto, ouais.
Non, voilà, bon. Oui, non, mais ça, c'est, non, mais tout ça, c'est les maisons de disques. C'est pas, je pense que c'est pas lui spécifiquement qui s'est inventé tout ça. D'ailleurs, c'est la maison de disques, je le dis, qui l'a obligé à changer de nom et aussi à s'inventer toute cette légende, quoi.
Voilà, donc il a eu une autorité quand même nationale, hein, mais ça n'a pas duré.
Ouais.
Ça a alors duré, une mauvaise réputation à Marseille.
Non, aussi. Mais alors le problème, c'est Jaoui qui était son guitariste, hein, qui m'a raconté un peu son histoire. Et donc, c'était Philips, je crois, qui cherchait un champion rock'n'roll face à Johnny. Je crois que c'était Vogue, ou je ne me rappelle plus le nom de la
donc la belle rivalité.
Voilà,
de la belle.
Et oui, et qui avait Johnny. Et eux, il leur fallait un champion. Donc, ils ont trouvé Rocky Volcano. Le problème, et Jaoui m'a montré cette double page de match où il y avait les trois quarts de la page, des pages qui étaient, enfin, les trois quarts des deux pages qui étaient dédiées à Rocky Volcano et juste une photo pour Johnny, c'est incroyable. Voilà. Et donc,
c'est un vrai journal de merde.
Et donc le problème c'est que après Philips a embauché Johnny.
Ouais,
et là merde. Ils ont viré Rocky. Et en plus ils ont piqué aussi ses musiciens, quoi. Ouais, c'est-à-dire Jaoui après il a joué pendant 5 ans avec Johnny.
Ouais. Belle gueule ce Rocky Volcano, hein. Sur les photos du bouquin. Il y a aussi alors Jacques Menichetti. Alors lui, on retrouve dans de nombreuses formations, il traverse toutes les périodes, notamment on parlait de 10 000 tonnes et ses parmètres.
Il est un peu de partout.
Qui a l'air pas mal. On a même entendu.
C'est super. Ouais. Dommage, je ne sais pas où on peut trouver ces bandes.
C'est peut-être lui, il a dû les garder.
Mais j'en sais rien, puisqu'il ne me les a pas, pas communiqués.
Alors il rate un poste de bassiste d'un Little Bob parce qu'il arrive en retard voilà des trucs comme ça. Ça c'est un peu pas.
C'est un personnage marseillais, Niquette.
Non mais alors il a fait des films.
Mais oui,
il a été connu. Western marseillais.
Voilà.
C'est Singa pour Singa. Un western.
C'est lui qui a composé la musique des films de Guédiguian.
Alors le truc c'est que Jacques il était complètement décalé au niveau look aussi. C'était l'époque des cheveux longs et les pattes d'eff, et lui il avait souvent une blouse d'employé de commerce, les cheveux courts, les lunettes, complètement décalé, mais complètement fou, mais super musicien.
Ouais, non, on voit les super musiciens, on prend Claude Olmos par exemple, qui a eu un parcours aussi intéressant, les Saint Gentlemen. Magma.
Alors justement, ça c'est un bon exemple, ça, parce que c'est deux personnages totalement différents au niveau des origines. Parce que Jacques, il vient quand même d'un milieu plutôt bourgeois. Son père était chef d'orchestre. C'est lui qui a peint le logo de la foire de Marseille. Et il a appris le solfège dès les premières années. Donc avec son frère, son père était très très exigeant au niveau des études musicales. Donc lui, c'est quand même un mec. Après, il a fait du jazz. Il était multicarte, quoi. C'est pour ça qu'il avait un certain niveau. Inversement, Claude, lui, il vient d'un milieu populaire. Et justement, quand il rentre dans les Cinq Gentlemen, c'était tous des étudiants en pharmacie ou en médecine. Et donc, le guitariste qui remplace, c'était un copain à eux de fac de médecine. Et lui, il arrive, c'est le seul, peut-être avec le batteur aussi, qui est élément populaire du groupe.
Il y avait ces mélanges. Et puis après, se restait musicien professionnel, puisqu'il faisait, alors comme vous disiez à un moment donné, Jacques Menichetti, il faisait aussi de la musique casse-croûte, quoi. C'est-à-dire qu'il faisait le métier, quoi.
Mais oui, oui.
Alors, dans la variété.
Après, il y a des tas de musiciens qui étaient là, par exemple des musiciens de jazz, comme Claude Jaoui, qui était musicien de jazz, il faisait du rock parce que ça marchait, quoi.
C'est là aussi on croise des lieux. Alors c'est aussi les lieux où il y a un endroit qui s'appelle le bar Le Central. Mmh. Alors tu en parles souvent, qui était.
Mais oui, mais moi je ne connaissais pas. Hein.
Un point névralgique.
Moi j'ai pas connu Le Central. J'ai pas connu.
Alors tu le dis bien dans le livre qu'il y avait une arrière-salle où il y avait donc les gars qui signaient les engagements. Toi tu vas jouer pour telle balle, sur la côte, etc.
Oui, mais on m'a raconté que c'est là que c'est. Alors on me dit, il n'y avait pas que le marché des musiciens.
Non,
je veux bien l'entendre. Voilà, mais effectivement, c'était le lieu de rouvage. par exemple, on m'a dit que les chefs d'orchestre, il manquait un musicien, c'est là qu'ils venaient. Il y avait même une salle où on pouvait essayer les musiciens pour voir si ça le faisait. En face, hein, c'était pas au central, c'était en face.
Il y avait une période, c'était le groupe de boîte, c'est ça aussi, où ça fonctionnait beaucoup.
Ben, j'ai une ou deux questions à poser, notamment, c'est quoi ton groupe préféré, à l'exception notable de Quartier Nord, tes groupes préférés, il n'y en a pas vers lesquels tirer
Dans le bouquin.
Tout
à l'heure, par exemple, en préparant l'émission, on parlait de Choc, qui est bon, c'est quand même vraiment pas mal. Moi, je dirais, à part le texte, pardon Richard, mais bon, I want to be my girl. Bon, le texte, je le trouve un peu rigolo, un peu léger, quoi. Mais par contre, musicalement, c'est vachement bien. 70 quand même.
On bondit là-dessus, parce que on avait prévu de les passer. Choc. C'est parti. C'est bien un groupe marseillais, les chocs donc tirés du livre donc de Robert Rossi, Histoire du rock à Marseille. Les chocs, un enregistrement qui date de 1970. Voilà, donc avec I Want You to Be My Girl. Voilà, donc mais pas mal les harmonies vocales, etc. Puis la belle mélodie. Donc voilà, donc c'est ça à découvrir en lisant ce bouquin, en l'écoutant, en écoutant la musique et en lisant un livre passionnant où il y a des histoires, mais alors des histoires rocambolesques. Bon, on parle pas de nitrate parce qu'on a déjà assez parlé il y a un mois de ça. Mais par exemple, il y a le groupe Hurricane, moi ça m'a tué cette histoire. Le gars, il sait pas jouer de la batterie, mais il va acheter la batterie la plus chère de Marseille. Ouais. Et après, elle est exposée dans le magasin
De Batalia.
Parce que le mec, il dit non, t'es ma belle, la batterie.
Non, c'est en fait, il pouvait l'entreposer là, mais bon, quand il s'en servait pas, elle était exposée parce que c'était trop beau. C'est vrai que ça a tiré le chaland. Voilà.
À Landa aussi, par exemple, qui signe un contrat à vie. Alors par contre avec des margoulins par exemple.
Ouais, mais ça, en fait,
ça serait des soubains,
le problème c'est que malheureusement dès qu'il y a business on tombe dans ce genre de plan. Mmh. Non, pour parler d'Alanda, j'ai fait un parallèle entre, enfin pas dans le bouquin mais c'est là après coup là, je me fais un parallèle entre l'histoire de monter à Paris,
oui.
De Whitechild, donc l'histoire de Whitechild.
Ils sont exilés carrément.
Et, oui, et l'histoire de Alanda, mais tous les deux exilés, mais Alanda ils avaient des points de chute. Et ils se sont rendus compte après coup, eux ils pensaient continuer à faire du rock et qu'ils ne se faisaient plus du rock.
Et oui, ils se sont liés.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait ils se sont adaptés au marché. Bon, ça leur a bien réussi. Ils ont
c'est devenu Canada. Canada,
ça, voilà, Canada, et puis après chacun. Mais ils ont fait un autre genre. Et Whitechild, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'eux, ils sont partis avec un J7, on leur disait, mais vous allez où? Et ils disaient, ben on va à Paris, mais où? Ah ben on va à Paris. Et donc ils ont dormi dans le J7, dans leur J7 en novembre. Et donc la galère, ils trouvent quand même une maison de disques qui, bon, le premier mini-album est produit par la mère du chanteur, mais le deuxième, ils trouvent une
Madrigal.
Ouais. Donc, mais après Madrigal, bon, ben une fois qu'ils ont l'album, ils font rien. Donc c'est eux qui vont démarcher pour faire la com, tout ça, parce que il se passe rien. Et donc après on s'épuise parce que là. On se rend compte, c'est un groupe après qui travaille tous les jours pour faire sa com, comme s'il n'avait rien. Il a juste l'outil de son album, mais c'est tout quoi. Voilà. Et donc on s'épuise et puis finalement ça dure pas très très longtemps. Quoi.
Ouais, c'est vrai que la notoriété à l'époque passait par Paris quoi. C'est vrai que beaucoup de groupes étaient obligés de monter à la capitale mais se brûlaient les ailes quoi.
Voilà. Les Whitechild vont être réédités en CD incessamment sous peu.
Ils ont été déjà
si ça n'a pas été fait déjà. Avec des inédits, avec du beau travail d'après ce que j'ai.
Alors le salut passe par l'autoproduction, hein, c'est-à-dire comme vous, Quartier Nord, qui avait travaillé beaucoup sur
le
label.
Le salut, je ne sais rien. Non, pour notre expérience personnelle, au bout de quelques expériences de démarchage, on en a eu marre. Notamment je pense que c'est avec Lederman qu'on avait vu Lederman et qui nous avait dit moi j'ai Trust, j'ai Warning, je vais pas prendre un autre groupe de hard, donc et là on s'est dit mais là lui il parle clairement, c'est-à-dire oui. Que on voit bien ce que c'est pas le truc, c'est pas de faire connaître ce qui se fait, le truc c'est de prendre un ou deux groupes, de mettre le paquet dessus quoi, voilà. Et donc là on s'est dit mais nous on n'a rien à faire avec tout ça, en plus ce côté sordide, le business, tout ça. Et en plus, nous, les contrats, chaque fois qu'on avait un contrat devant les yeux, on annulait une répé, c'était analyse du contrat. On mettait du stabilo, on disait ça nous plaît pas, on veut que ça soit remplacé par ça. Ouais. Évidemment, quand les mecs, ils voient, ils disaient mais qu'est-ce que c'est ça c'était pas possible, quoi. Donc, on était vraiment allergique à la production. Quoi.
Robert, ce livre, il est merveilleux. Je le conseille à tous ceux qui ne l'ont pas acheté.
À ce point.
Ouais, très bien.
C'est la nouvelle Bible.
Histoire du rock à Marseille. Donc, il y a des histoires même tragiques, des histoires rocambolesques, histoires de drogue. Il y a tout ce qui fait le rock'n'roll. La montée à Paris, le service militaire, bien sûr, qui a cassé aussi la dynamique, etc. On trouve tout ça dans ce bouquin. Hein, donc, il y a plus de 50 groupes qui sont recensés. Et c'est une histoire passionnante. Robert aussi, histoire du rock à Marseille, 1960-1980. Merci d'être venu.
Merci à vous.
Puisque l'heure tourne. Alors, on vous laisse avec Fazio Mignot, qui est un grand vétéran, 89 ans, pionnier du rock. Premier enregistrement en 1947. À l'époque où le rock'n'roll n'existait pas, c'était le Rhythm and Blues, qui était que les Noirs américains qui jouaient ça.
Fait, il existait, mais c'était pas les Blancs qui le jouaient.
Voilà. Et
vous savez qu'il était déjà mort en 2005 parce qu'il avait disparu dans Katrina et qu'ils l'ont retrouvé.
Ah oui, c'est
sa fille qui l'a revu dans des images d'actualité, oui, avec des secouristes. Donc il était mort en 2005, mais sa vraie mort, c'est sa fille.
La première mention du mot rock'n'roll, c'est en 1926, les Boswell Sisters.
Merci Gilles pour cette précision. Merci encore Robert aussi. Achetez ce livre. Achetez ce livre magnifique. Non. Merci à tous. On vous laisse à l'écoute de Radio Grenouille. La soirée continue et nous on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.
Ciao les amis.
Ciao.